Tout d'abord, on commence l'émission avec un segment d'ordre médical. On sait que la recherche en santé est le nerf de la guerre dans le financement et les causes les plus connues s'en sortent bien, comme le cancer. Mais il y a plusieurs obstacles à la recherche sur les maladies rares. Je joins à Sherbrooke Mme Gail Ouellet, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour, Mme Ouellet.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va se pencher sur cet aspect de la recherche pour les maladies orphelines, mais surtout de nommer les obstacles à la recherche.
Oui, longtemps, il y a eu des obstacles qui ont fait qu'il y avait peu de recherche sur les maladies rares. On peut dire que ça a augmenté un peu l'intérêt de faire cette recherche-là maintenant, mais il y a toujours ces obstacles qui vont peut-être garder certaines maladies rares orphelines longtemps. Puis, ben, les premières ont affaire avec les premiers obstacles ont affaire avec la définition d'une maladie rare, c'est que c'est rare et 80% c'est moins d'une personne sur 100 000. Donc, dans chaque pays, il y a très peu de patients, de personnes atteintes de ces maladies rares, de plusieurs maladies rares, puis il y en a qui sont même très, très rares, là, mm-hmm. où il y a très peu de gens. Donc, ça, évidemment, ça limite la recherche qu'on peut faire, surtout au niveau de la recherche clinique puis des essais cliniques, parce que ça fait un petit nombre de patients pour des essais cliniques.
Oui. Définissez-nous qu'est-ce que de la recherche clinique?
Oui. Bien, la recherche, on peut dire qu'il y a deux grandes formes de recherche en biomédical, là, donc la recherche fondamentale. Là, on travaille vraiment en laboratoire pour trouver les mécanismes de base biologiques là, d'une maladie ou d'un mécanisme biologique. Puis la recherche clinique, ce serait de la recherche plus appliquée là, pour en arriver éventuellement à une thérapie ou des traitements ou même des interventions. Là. Donc, il y a différents types de recherche clinique, mais ce qu'on veut au bout, évidemment, souvent, c'est une thérapie, donc des essais cliniques là, sur les humains.
Mm-hmm. Du fait qu'il y ait justement peu de personnes dans une population donnée qui a la même maladie rare, ça rend les essais cliniques plus difficiles.
Oui, effectivement. Puis c'est pour ça qu'il faut, en général, dans ce domaine-là, faire des efforts internationaux. Fait qu'on fait ce qu'on appelle des essais cliniques multicentriques avec plusieurs centres qui font ces essais-là dans plusieurs pays à la fois hein, pour avoir un nombre suffisant de patients. Fait que ça, c'est coûteux, c'est compliqué à organiser. Donc, c'est pour les compagnies pharmaceutiques, là, et c'est sûr que c'est plus compliqué que travailler, faire un essai clinique sur des centaines de patients dans un pays ou des milliers de patients.
Mm-hmm. Au Québec et au Canada, comment on s'en sort justement de ce point de vue-là, de faire de la recherche en partenariat avec d'autres pays?
Bien, maintenant, il y a des chercheurs au Québec, puis il y a eu un concours l'an passé, puis il y a des chercheurs qui ont obtenu des subventions pour participer à un programme international qui a débuté en Europe, qui s'appelle E-Rare, donc E-Rare. Et puis, donc, le gouvernement québécois a mis quelques centaines de milliers de dollars dans cet effort-là. Puis, donc, pour certaines maladies, il y a des chercheurs québécois et même canadiens qui y participent pour faire avancer, entre autres, des thérapies pour des maladies spécifiques. Mais ça, c'est un effort. Pour ce qui est des efforts dans notre propre pays, ben, mm-hmm. on est mieux qu'avant, mais on est moins avancé qu'aux États-Unis ou l'Union européenne, par exemple. On a moins de programmes pour maladies rares.
Qu'est-ce qui expliquerait ça? Est-ce que c'est la densité de population qui vient jouer un rôle?
Ça peut être ça, mais en même temps, les autres pays, c'est parce qu'ils ont mis des programmes, des politiques, des efforts pour que ça soit parmi leurs priorités. Mm-hmm. Aux États-Unis, ils ont le Office of Rare Disease. Le NIH a des sections qui sont dédiées aux maladies rares. En Union européenne, les pays ont des plans nationaux maladies rares. C'est ce qu'on n'a pas encore au Canada. Donc, on a des efforts encore, mais c'est sûr que c'est moindre. C'est sûr que c'est peut-être le fait qu'on a un pays moins populeux et très grand là peut être un obstacle pour faire certains essais cliniques, par exemple, mais ça n'empêche pas de faire de la recherche de laboratoire, au moins.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce que souvent il y a des fondations privées, des associations de patients, par exemple, qui vont choisir de financer la recherche sur des maladies rares?
Oui, en fait, là, c'est vraiment la plus grande part du financement pour la recherche sur les maladies rares est venue des associations de patients ou des fondations comme ça. C'est seulement en 2012 là, que les Instituts de recherche Santé Canada ont mis sur pied un programme de subvention spécifique pour les maladies rares. Mais depuis 30 ans, 40 ans, des grosses fondations financent, là, les plus connues étant Dystrophie musculaire Canada, Fibrose kystique Canada, qui depuis des années mettent des millions dans le financement de ces maladies-là. Puis il y a même des plus petites fondations comme l'acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, auquel on associe Pierre Lavoie, où finalement, c'est leur effort de financement qui a fait le gène a été découvert, etc. Et la même chose pour les ataxies familiales, sclérodermie. Québec a même payé une chaire de recherche à l'Université de Montréal. Donc, le plus gros est vraiment venu de ces organismes-là.
Madame Ouellette, combien ça prend de sous pour commencer une recherche, que ce soit clinique ou participer à de la recherche fondamentale? C'est pas en ramassant 5 000 $ qu'on va aller très loin.
Oh non, pas du tout. Je dirais que avec un petit montant comme ça, on peut peut-être faire des recherches qui sont pas nécessairement des recherches de laboratoire, hein, parce qu'il y a d'autres types de recherches qu'on peut faire des fois sur les aspects sociaux, psychologiques, physio. Mais pour la recherche, là, vraiment, qui amènerait à comprendre la maladie puis à des résulterait en des traitements, ben ce que je peux vous dire, c'est que la Fondation Grand Défi Pierre Lavoie, il donne des subventions chaque année pour les maladies orphelines héréditaires. Puis leur subvention, c'est de 25 000 en se disant que c'est suffisant pour faire partir un projet en espérant qu'après, ces chercheurs-là obtiendraient des subventions d'un organisme officiel là, ailleurs. Mm-hmm. Donc, avec 25 000, on peut, dans un laboratoire, là, réussir à faire des études de base en tout cas, ou répondre à une question précise. Fait que c'est sûr que... Mais c'est sûr, pour des essais cliniques, là, on oublie ça. Des essais cliniques, en général, quand les chercheurs sont rendus là, ben ils n'ont pas tellement le choix que de s'associer à une compagnie pharmaceutique qui peuvent investir des gros montants.
Justement, ces compagnies pharmaceutiques, est-ce qu'il y a un intérêt de leur côté à participer à de la recherche, à découvrir des traitements? On sait que ça, ils peuvent tirer un avantage de ça.
Oui, en fait. Les dernières années ont vu vraiment une augmentation de l'intérêt. Hein. Ça a pris un règlement aux États-Unis dans les années 80 pour favoriser l'intérêt des compagnies en leur donnant des incitatifs. Puis là, ça a augmenté l'intérêt. Mais depuis les dernières années, même les grosses compagnies pharmaceutiques s'y intéressent parce que ils ont fait pas mal de recherches sur les autres maladies fréquentes, puis il y a moins d'opportunités. Donc, les maladies rares sont une opportunité de ce temps-là.
Est-ce qu'au Québec, ça semble être une tangente qu'on prend? Est-ce qu'il y a ce type de partenariat-là? Est-ce qu'il y a des chaires de recherche, par exemple, associées à des groupes pharmaceutiques au Québec?
Oui, il y a des partenariats qui se font. On voit depuis quelques années là, même je dirais les dernières deux années, il y a eu plusieurs annonces là de gros projets de recherche là, sur les maladies mitochondriales, etc., qui, en fait, ont été financés par des fondations privées, mais il y a des petits projets comme ça auxquels des compagnies pharma qui semblent prometteurs pour des traitements, puis auxquels les compagnies pharma s'intéressent, fait que des partenariats, je pense qu'il va en avoir de plus en plus.
En terminant, Mme Ouellette, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, si on veut participer, si on veut encourager la recherche sur les maladies orphelines?
Ben, c'est sûr que de pouvoir participer à des levées de fonds là, sur les financements de recherche de maladies rares, parce que c'est sûr qu'on a moins de visibilité encore. On entend plus toutes les courses et les événements pour les maladies comme le cancer, puis c'est très correct là, parce que c'est plus fréquent. Mm-hmm. Mais bon, s'il y en a qui connaissent des personnes dans leur famille avec des maladies rares, peut-être qu'ils peuvent aller plutôt donner vers ça. L'autre chose aussi, c'est puis ça, on peut contacter notre organisme. Nous, on favorise aussi la participation des personnes qui ont des maladies rares ou bien donc même là, des proches aidants à participer à des études. On peut mettre en contact, ils peuvent participer à des registres de maladies, à des biobanques. Fait que ça, c'est une façon d'aider puis de participer.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Gaëlle Ouellette du Regroupement québécois des maladies orphelines. Merci d'avoir collaboré avec nous tout au long de la saison et on espère que la population continuera à développer une connaissance, un intérêt envers les maladies rares qui touchent près de 500 000 Québécois, on le rappelle.
Merci à vous.
Merci.